Marie-Madeleine, qui va nous présenter une communication intitulée « Proposition pour une étude de la mise en perspective critique de la notion de langue maternelle dans un ensemble de travaux de recherche en didactologie du UFLE-FLS de 45 à 2015 ».
Bien, bonjour à tous et merci de me donner la parole. Donc, je vais commencer immédiatement en disant que cette communication va proposer des éléments d'étude donc de la notion de langue maternelle à partir d'analyses qui en a été faite dans un ensemble de travaux de recherche en didactique du français langue étrangère, français langue seconde, publiés dans la période 1980-2010. Donc, après avoir évoqué dans un premier temps les principaux caractères de la notion dans la période antérieure à 1945, de manière à montrer que cette notion a une épaisseur notionnelle dans les textes institutionnels en vigueur pendant la période précédant immédiatement la périodisation retenue par le colloque et que cela ne va pas s'empeser sur ses contenus, on s'efforcera de montrer dans un second temps que cette notion a été critiquée dans les travaux postérieurs à 1945 du fait de sa polysémie, que des alternatives conceptuelles et terminologiques ont été proposées et qu'elle a perdu de ce fait une partie de sa légitimité notionnelle dans ce champ de la recherche. On fera l'hypothèse que l'évolution en diachronie de la notion dans le champ de la didactique du FLE-FLS vise à la débarrasser de ses ambiguïtés, à la clarifier de manière à répondre aux nécessités de l'analyse des contextes contemporains visés par le FLE-FLS. Alors, je précise que j'ai proposé une périodisation seconde par rapport à celle du colloque, puisque je vais uniquement travailler sur un corpus de travaux publiés entre 1980 et 2010. Donc, la notion de langue maternelle dans les travaux antérieurs à 1945. Premier point, 1882-1938, une notion polysémique. Premier point et premier sous-point, le sens de parler vernaculaire. La polysémie de la notion, elle est ancienne dans la réflexion sur l'enseignement du français en milieu institutionnel. Elle est observable dès la fin du XIXe siècle dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson, dont la première édition, 1882-1887, est contemporaine des lois fondatrices sur l'école primaire portées par Jules Ferry en 1880 et 1882. On y lit en effet à l'article « Langue maternelle » que l'enfant apprend les premiers éléments de sa langue sur les genoux de sa mère dans le contact journalier avec le milieu familial. La notion de langue maternelle a ici le sens que la recherche contemporaine en sociolinguistique et en didactique confère au parler vernaculaire qu'on définira comme le parler utilisé dans l'environnement immédiat du locuteur concerné, dans sa famille ou au sein de son groupe de pairs. Là, je renvoie ici à Gumpers, 1971, Dabed, 1994, Cuc, 2006. Deuxième sous-point, la langue de scolarisation. Ce constat n'empêche pas le rédacteur de l'article du dictionnaire de commencer son article par les propos suivants. On peut dire sans exagération de la langue maternelle qu'elle est le fond même de l'enseignement à l'école primaire et de faire du français langue maternelle la langue de l'enseignement à la fin du XIXe siècle, équivalent, mutatis mutandis, du français de scolarisation. Contemporain. À ces acceptions spécifiques à l'enseignement du français s'ajoute une acception plus politique. En effet, troisième sous-point, la langue maternelle, c'est aussi la langue de la patrie. En effet, si la langue maternelle est toujours définie en 2015 dans son sens usuel comme la première langue qu'a parlé un enfant, souvent celle de sa mère, c'est la définition proposée par le Petit Robert 2015, elle a longtemps été assimilée à la langue de la patrie, comme l'indique l'édition de 1959 du dictionnaire Le Robert, qui précise que la langue maternelle peut être tantôt celle de la mère, tantôt celle de la mère-patrie. Alors j'emprunte d'ailleurs cette définition à l'article de Pierre Boutan de 2003 donc sur le sujet, alors que l'édition de 2015 du Petit Robert ne procède pas à cet amalgame et distingue les notions de langue maternelle, nationale et officielle. Les usages de la notion à la fin du XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle renvoient donc soit au parler vernaculaire transmis dans la famille, soit à la langue de l'enseignement, soit à la langue nationale définie, et je cite à nouveau Pierre Boutan, comme la langue de l'État dans lequel on est né. En 1938, on voit donc dans un texte institutionnel, puisqu'il s'agit des instructions pour l'école primaire, une clarification terminologique par rapport donc au dictionnaire de Buisson. Donc, 56 ans après le début de la publication du dictionnaire de Buisson, les instructions pour l'école primaire de 1938 se réfèrent toujours à la notion de langue maternelle, au sens de parler vernaculaire. Je cite, « Les enfants ont appris de leur mère, de leur famille et de leurs camarades la langue maternelle. » Mais les instructions distinguent explicitement la langue française apprise auprès de la mère de la langue française utilisée dans le cadre de l'enseignement. Donc là, voici une citation des instructions. « La langue française que les maîtres enseignent n'est pas celle que les enfants emploient spontanément. » Et donc, elle n'assimile pas le parler vernaculaire à la langue de l'enseignement en utilisant une terminologie identique pour les désigner. Donc, on peut voir là déjà, dans ce feuilletage, un effort donc, pour justement distinguer les différents aspects donc, que peut prendre cette notion. Donc, en 1945, en fait, date de début de la réflexion donc, du colloque, on voit apparaître un tournant, donc, puisque en fait, apparaissent les notions de français langue étrangère, puis de français langue seconde, et ensuite l'ouverture à d'autres expériences langagières que celles qui ont été évoquées précédemment. Donc, à partir de 1945, à la fin du second conflit mondial et dans un contexte de modification des rapports de force internationaux, la question des statuts du français va s'ouvrir à des enjeux nouveaux dans le cadre de l'action du ministère des Affaires étrangères en faveur de la diffusion du français à l'étranger. Dans ce cadre, le statut du français sera d'être, d'une part, la langue nationale de la France, d'autre part, d'être aussi, là je cite donc un texte de Badevant, d'être aussi, je cite, la langue maternelle non seulement des Français, mais aussi des Canadiens français, des Belges wallons, des Suisses romands, et enfin d'être également une langue officielle ou d'enseignement pour plus d'une trentaine d'États indépendants. La mention des textes institutionnels ou des préoccupations politiques et administratives relatives à l'enseignement du français à l'étranger nous permet de souligner la présence depuis la fin du XIXe siècle dans le cadre hexagonal ou à partir de 1945 en ce qui concerne la diffusion du français à l'étranger, de la notion de français langue maternelle en lien avec laquelle vont progressivement être construites les notions de français langue étrangère et de français langue seconde. Les politiques conduites en faveur de la diffusion du français à l'étranger vont contribuer au développement d'une réflexion et de recherche sur des modes d'enseignement-apprentissage jugés plus appropriés aux nouvelles réalités sociales et géopolitiques. Donc là, je cite le texte de l'appel à communication du colloque et conduire à partir des années 1970-1980 à une mise en débat de la notion de langue maternelle effectuée par un certain nombre de chercheurs en didactologie du FLE-FLS qui vont complexifier l'approche et proposer des alternatives conceptuelles, notamment parce que leurs travaux ne portent pas sur le même type d'expérience langagière que celles qui sont évoquées par Buisson ou par les instructions de 1938. Le contenu de la notion de langue maternelle n'est pas le même, en effet, selon les contextes institutionnels d'enseignement. Les travaux abordés dans cette période se situeront dans la période 1985-2010. Le choix a été fait de construire une périodisation seconde à l'intérieur de celle proposée par l'appel à communication du colloque, en partie parce que le texte lui-même souligne que la véritable institutionnalisation de la recherche didactologique sur le FLE-FLS date des années 1970-1980. La prise de distance critique s'opère en particulier dans les travaux de Henri Besse, Louise Dabène, Véronique Casselotti et Jean-Pierre Cuc, sur lesquels l'analyse va porter. Elle conduit à déplacer le champ de la réflexion. Cette évolution est fondée sur une prise de recul à l'égard du lien à la mère impliqué par la notion qui apparaît progressivement à partir des années 80. Donc, le corpus étudié est le suivant. Je suis partie de deux articles d'Henri Besse, « Les langues et leur enseignement, apprentissage » publié dans les travaux de didactique du français langue étrangère en 1987 et d'un article intitulé « De l'institution du français tel qu'il est enseigné appris » dans un ouvrage dirigé par Pierre Martinez et dont le titre est « Le français langue seconde, apprentissage et curriculum ». Je suis partie ensuite de l'ouvrage de Véronique Castellotti, publié en 2001, « La langue maternelle en classe de langue étrangère », de l'ouvrage de Jean-Pierre Cuq, le dictionnaire de Jean-Pierre Cuq, publié en 2006, et dont le titre est « Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde », et enfin de l'ouvrage de Louise Dabène de 1994, « Repères sociolinguistiques pour l'usage des langues ». Je verrai dans une deuxième partie la notion de langue maternelle dans les années 80, et je partirai d'abord donc des travaux de Henri Bess. Donc, en 1987, Henri Bess souligne une triple dimension. Donc, il définit la langue maternelle comme une langue acquise dès le plus jeune âge par simple interaction avec la mère, mais il y ajoute deux dimensions. Celle de la maîtrise, c'est une langue qui est supposée mieux maîtrisée que toute autre acquise ou apprise ultérieurement. Et enfin, celle de l'antériorité d'apprentissage qui justifie les dénominations synonymiques de langue première ou langue native. Cette définition est complexifiée et nuancée en 2002. En effet, Henri Bess précise dans un article intitulé « De l'institution du français tel qu'il est enseigné appris », je cite, « qu'enseigner apprendre une langue maternelle peut être explicité comme enseigner une variété de cette langue, sa variété cultivée, à des apprenants qui en pratiquent déjà oralement une autre variété ». Il ajoute ensuite que pour qu'il y ait didactique de la langue maternelle, il est nécessaire que l'intercompréhension entre la variété enseignée et les variétés pratiquées plus ou moins nativement par les élèves subsiste. Donc, il me semble qu'on retrouve dans ces propos l'opposition parler vernaculaire langue de scolarisation évoquée dans la première partie. Ensuite, deuxième point, je vais travailler sur les travaux de Louise Dabène, son ouvrage publié en 1994, et je ferai l'hypothèse que dans cet ouvrage, on observe une complexification du statut de la langue maternelle. Louise Dabène critique le fait que la langue maternelle soit considérée comme étant la langue de la mère, et de ce fait, elle remet en question la légitimation par la naissance. Elle remet également en question le fait qu'elle soit la première acquise, à savoir la légitimation par l'antériorité d'appropriation, et enfin qu'elle soit la langue la mieux connue, autrement dit que le niveau supérieur de compétence des locuteurs dans leur langue maternelle est légitimé par l'antériorité d'appropriation. Elle montre en effet qu'il n'y a pas d'universalité des structures familiales et que les enfants peuvent être élevés par une autre personne que leur mère biologique. L'antériorité d'appropriation peut être relativisée dans certaines situations linguistiques plurilingues, de même que le présumé niveau supérieur de compétence. Elle propose une alternative terminologique à la dénomination langue maternelle et introduit les notions de parler vernaculaire, de langue de référence et de langue d'appartenance. Le parler vernaculaire d'abord. Donc, chaque individu est doté d'un parler, je cite Louise Dabène, qui représente son premier contact avec le langage, acquis au sein du groupe primaire, largement influencé par les contacts avec le groupe de pairs. Ce parler est identifié par les sociolinguistes américains comme le parler vernaculaire du sujet. En situation plurilingue, il est défini comme le dialecte utilisé au contact du groupe le plus proche. Donc, Gumper s'écrit « Le terme vernaculaire sera employé pour la forme de discours utilisée à la maison et dans le groupe de pairs local. En contexte monolingue, il renvoie à un style contextuel. Selon Labov, ce style contextuel est le style où l'on accorde le minimum d'attention à la surveillance de son propre discours. En tant que pratique langagière, il s'insère dans l'univers communicatif du sujet. Il intègre donc une dimension non-verbale, la proxémie, les rituels de communication. Néanmoins, en ce qui concerne l'apprentissage, il faut distinguer le contexte informel, familial, avec les pairs, et le contexte formel, institutionnel, scolaire. Le parler vernaculaire ne se confond donc pas avec la langue de référence. La langue de référence. Louise Dabène insiste sur le fait que dans des situations d'enseignement-apprentissage, la dénomination « langue maternelle » est attribuée à la langue enseignée dans le cadre de l'institution scolaire, sous ses formes les plus normatives, incarnées par les formes écrites. Cette langue de scolarisation a pour finalité d'être le médium de transmission des savoirs scolaires, un médium caractérisé par sa permanence. Elle constitue la langue de départ de l'apprenant, autrement dit le substrat langagier de l'élève. Définie par Sophie Moirand d'abord en 1982, puis par Louise Dabène en 1994 comme la langue de référence. Louise Dabène insiste sur le fait qu'en situation plurilingue, il n'y a pas d'homogénéisation des variétés et que lorsqu'un apprenant a pour langue de scolarisation une langue distincte de celle de sa famille, la langue de référence ne s'identifie pas à son parler vernaculaire et qu'il peut y avoir dans ce type de contexte plusieurs langues de référence qui coexistent, comme c'est le cas au Cameroun, pays officiellement bilingue et doté de deux langues de scolarisation, le français et l'anglais. Pour Louise Dabène, la langue maternelle revêt aussi une dimension politique à laquelle la recherche en didactique du FLE-FLS s'intéresse du fait des restructurations de l'espace francophone résultant de l'accès à l'indépendance des anciennes colonies dans les années 60. Dans certains cas, elle est assimilée aux langues nationales et acquiert de ce fait le statut de langue de scolarisation. La langue qui est présentée comme celle de l'enseignement en langue maternelle étant en l'espèce la langue nationale de l'État qui organise le système éducatif. La langue d'appartenance. Cette dimension renvoie à la dimension identitaire que possède également la langue maternelle. Louise Dabène propose de réserver cette dénomination de langue d'appartenance, nationale, religieuse ou ethnique, à la langue ou variété de langue considérée par le locuteur comme définitoire de son appartenance communautaire. Elle souligne que lorsque les locuteurs sont dans une situation de minorisation, ils peuvent revendiquer comme langue maternelle une langue qu'ils ne parlent pas dans les faits. Véronique Castellotti mentionne également le fait que certains locuteurs migrants déclarent avoir dans leur répertoire une langue maternelle qu'ils disent ne pas parler. Des facteurs identitaires interviennent également dans les représentations relatives à la langue maternelle, notamment lorsqu'il s'agit d'une langue minorée. La relation à cette variété peut alors être perçue comme affective et subjective. Ce phénomène a été décrit par Gabriel Varro et Françoise Gadet comme un fait, je cite, de bilinguisme symbolique, qui témoigne, écrit Roman Colonna à propos du Corse, de la force tant des affects attachés à la langue que de la pression identitaire. Petite citation de 2013. Ce bilinguisme symbolique peut apparaître dans une situation de monolinguisme de fait. Le locuteur ne parle pas sa langue familiale, mais lui confère, je cite Jacqueline Billiez, une valeur centrale dans son système d'identification. Donc Billiez, 1985. Au tournant des années 2000, le contenu de la notion de langue maternelle évolue avec la montée en puissance de la réflexion sur l'enseignement du FLS et de la prise en charge des enfants de migrants. Véronique Castellotti, dans son ouvrage de 2001, dont le titre est « La langue maternelle en classe de langue étrangère », met en évidence le caractère pluriel de la notion, montre que cette dimension polysémique la rend ambiguë et explique pourquoi elle est concurrencée par les dénominations concurrentes de langue première lorsqu'il s'agit d'insister sur l'antériorité d'appropriation ou de répertoire verbal lorsqu'il s'agit d'observer le statut des langues en discours dans les interactions. Donc, dans un troisième point de cette deuxième partie, j'aborderai l'ouvrage de Véronique Castellotti et je ferai l'hypothèse qu'on voit dans cet ouvrage une réflexion à propos de la langue maternelle, mais qui se situe dans une dynamique qui va de la langue maternelle à la notion de répertoire verbal. L'ouvrage de Véronique Castellotti acte une atténuation relative de la notion de langue maternelle au profit de celle de répertoire verbal, malgré sa présence dans le titre du fait de l'émergence de la réflexion sur les parlers bilingues et la didactique du plurilinguisme. Dès le premier chapitre intitulé « Les relations entre langue étrangère et langue maternelle, une histoire pleine de rebondissements », Véronique Castellotti souligne qu'il existe une relation de synonymie entre les dénominations « langue maternelle »,« langue première » ou « L1 » ou encore « langue 1 », comme on le voit dans les exemples suivants, lesquels donc mettent en évidence les différentes occurrences. Donc la langue, je cite quelques exemples pour illustrer ce point. La langue première n'est que très rarement complètement évacuée de l'enseignement des langues étrangères. L'utilisation de la langue 1 pour faciliter certains apprentissages. L'exemple du processus d'acquisition des L1 est même souvent invoqué. Le latin est en effet la première langue acquise par Montaigne à la place de sa langue maternelle.
Vous voulez que j'enlève le...
Oui.
Excuse-moi Marie-Madeleine, il te reste à peu près 5 minutes.
D'accord. Donc, une définition en contour incertain. Au chapitre 2, langue maternelle, langue première, langue source et quelques autres, Véronique Castellotti souligne le caractère flou de la notion pour les locuteurs qu'elle a interrogés lors d'enquêtes effectuées à ce sujet. Donc, on pourrait donc penser que cette expression langue maternelle renvoie également à une signification précise et communément partagée. Pourtant, lorsqu'on interroge les mêmes individus sur le sens qu'ils lui accordent, on constate que les définitions proposées ne coïncident que très partiellement. Cette définition, au contour incertain, elle est caractérisée par la constance de certains traits. Dans le même chapitre, Véronique Castellotti note la permanence d'un certain nombre de traits dans la définition, le lien avec la mère, le rapport aux origines, aux racines, l'antériorité d'appropriation liée au mode d'acquisition, le haut degré de compétence. Elle évoque également des critères fonctionnels et identitaires, que je ne développe pas puisque donc, on les a déjà abordés tout à l'heure. Une définition dont les traits sont mis en débat, et notamment donc du fait que le lien avec la mère, donc présent dans les représentations de cette variété, n'est pas universel. Donc, ce constat conduit Véronique Castellotti à conclure que la démarche de catégorisation est ambiguë et que c'est cette ambiguïté qui explique la recherche de dénominations alternatives. Donc, les alternatives terminologiques que je vais énumérer succinctement sont les suivantes: langue source et son corollaire, langue cible, langue native, langue de référence, langue première. Et donc, à l'issue réflexion sur les différentes alternatives terminologiques, on voit dans cet ouvrage que sont pointées les limites de la notion de langue maternelle et qu'émerge donc la notion de répertoire verbal. Donc, je ne vais pas développer plus avant puisqu'il me reste très peu de temps. Donc, je passe maintenant au dictionnaire de Jean-Pierre Cuc, dans lequel je dirais qu'il y a une redéfinition des contours de la notion, prise de distance à l'égard du lien avec la mère. Donc, la notice langue maternelle du dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde s'inscrit dans la perspective ouverte par les travaux précédemment évoqués et définit la langue maternelle comme la langue acquise la première par le sujet parlant, dans un contexte où elle est aussi utilisée au sein de la communication. Néanmoins, cette notion souligne que la langue maternelle peut être aussi définie comme une langue de première socialisation, un vernaculaire communicatif. Sortant du champ didactique stricto sensu pour questionner les dimensions sociopolitiques de la notion, la notice précise que la langue maternelle peut être également la langue officielle de l'État où vit le locuteur ou une langue nationale de ce même État, si cet État comprend des langues nationales qui n'ont pas le statut de langue officielle. La notice spécifie que, du fait de son ambiguïté, la dénomination langue maternelle a été supplantée par celle de langue première ou de L1, celle que le locuteur a acquise en premier chronologiquement. Donc, la notice conclut sur le processus de déconstruction critique de la notion dans les champs de la didactique qui se manifeste à travers la perception de statut mixte ou intermédiaire entre les deux pôles maternel et étranger, se traduisant par des dénominations comme langue seconde, sans que la didactique renonce pour autant définitivement à recourir à cette notion, du fait de son indéniable épaisseur conceptuelle et de sa richesse théorique bimillénaire. Conclusion. Pour conclure, on soulignera la convergence des ouvrages du corpus pour souligner l'affaiblissement de la notion de langue maternelle au profit de celle de langue 1 ou de langue première dans le champ de la didactique, du fait de ses ambiguïtés et de sa complexité, et inversement des simplifications auxquelles elle conduit lorsqu'elle est employée dans le cadre d'une opposition binaire à la langue étrangère. Cette opposition binaire conduisant à négliger les statuts mixtes et intermédiaires représentés par les langues secondes, que prend en compte d'une manière beaucoup plus satisfaisante la notion de répertoire verbal, nettement plus apte à rendre compte de situations sociolinguistiques complexes. On peut se demander s'il ne convient pas de souligner que la notion connaît une certaine obsolescence au plan didactique, car elle n'est plus en phase avec les situations linguistiques contemporaines plurilingues et n'est pas à même de rendre compte du statut des langues en présence dans les répertoires plurilingues, car, comme l'écrit Véronique Castellotti, la constitution d'une identité plurilingue et pluriculturelle ne se fait pas par la seule juxtaposition de fragments relevant d'une ou de l'autre identité. Enfin, au plan sociolinguistique, elle semble supplantée dans certains cas par d'autres dénominations comme celle de langue du cœur, par exemple utilisé par Roman Colonna à propos du rôle idéalisé dans les représentations des étudiants de l'université de Corte, qu'il a interrogé à ce sujet, joué par la famille dans la transmission de la langue corse. En effet, sur un groupe de 452 étudiants de licence de l'université de Corte interrogés, 40% donnent des réponses positives en faveur d'un apprentissage familial du corse, ce qui n'est pas confirmé par les performances en corse de ces étudiants. Roman Colonna y voit le signe d'une transmission mythifiée. La famille est considérée comme le dépositaire et le moyen de transmission quasi unique d'une langue associée à l'identité et à la culture. Roman Colonna met en évidence le fort coefficient affectif attribué à la langue corse par les étudiants qui ont participé à l'enquête, et c'est d'autant plus qu'ils parlent peu ou pas le corse. Pour caractériser cette situation, il utilise la dénomination de langue du cœur et non celle de langue maternelle, qu'il illustre par l'affirmation oxymorique suivante « Le corse, c'est ma langue, mais je ne le parle pas ». La langue maternelle, au final, est peut-être davantage convoquée dans les discours communs ou dans certains discours politiques ou idéologiques, dans lesquels elle reste un argument mobilisateur des rhétoriques identitaires dans le cadre de conflits linguistiques et ethniques. Et ma bibliographie est la suivante.
Merci Marie-Madeleine.
Voilà.